Chapitre 14. Le roi aux têtes innombrables. Savez-vous ce qu'est un théâtre? Un théâtre, c'est un royaume. Le roi n'y a pas de couronne, mais il est porteur d'innombrables têtes. Il trône dans un fauteuil rouge. Il pense parfois que, pour un trône, ce fauteuil est un peu dur. Mais cela n'empêche pas ses têtes d'être très attentives. Ses yeux brillent de plaisir, ses bouches éclatent de rire. Et malheur à ceux qui font s'endormir le roi, car celui-ci est alors sans pitié. Ce roi puissant devrait être sage. Pourtant, il se laisse sans cesse emporter par les émotions. Non seulement il rit, mais il arrive qu'il pleure. Il aime, il déteste, il siffle de colère, ou d'admiration aussi, quelquefois. Les rois ordinaires ont un prénom, suivi d'un numéro. Lui s'est baptisé d'un substantif. Il dit fièrement « Je suis le public ». Il s'habille généralement de façon très simple, mais souhaite que ses sujets soient parés d'habits superbes, d'atours surprenants empruntés à tous les pays, à tous les siècles. Il faut aussi qu'on lui présente des visages enduits de fard, qu'on mette des perruques bouclées. Ce roi exige de ses vassaux, autant que possible, la beauté, le charme, le talent, l'art de bien parler ou de bien chanter, ou de bien danser. Ce roi, chargé de tant de cerveaux encombrés de graves soucis, aime qu'on les lui fasse oublier. Il veut qu'on le distrait. C'est pourquoi les vassaux, qu'on appelle les acteurs, sont si terriblement nerveux en permanence. Ils souhaitent que leur roi les admire. Chacun d'entre eux désire même être le premier dans son cœur. D'où de perpétuelles querelles, des agitations à la cour, des inimitiés, des complots, des crises et des larmes. Le royaume, je veux dire le théâtre, est un lieu où les passions foisonnent. Le roi ne voit rien de tout cela. Il dit « Que mes sujets s'habillent et me donnent un spectacle. Je suis prêt et ne veux pas attendre. » Chacun, alors, se remet à sourire et le roi ne peut rien soupçonner de ce qui se passe dans les esprits. C'est bien ainsi. Quand on prépare un nouveau spectacle, il y a beaucoup de mouvements dans le royaume. Une armée de chambellans s'occupe à construire des décors. On coud des robes et des pourpoints, on brosse des toiles, on fabrique des meubles, des étoffes entrent à flot pour recouvrir des fauteuils et devenir des tentures. Les ateliers vivent un intense travail. Chacun y est sur le pied de guerre, une guerre pacifique. D'ailleurs, on donne à l'effectif global des comédiens et techniciens le nom de troupe. À l'heure où commence cette histoire, on en était aux préparatifs qu'on appelle communément « répétition ». Un jeune metteur en scène avait fait très soigneusement une distribution d'acteurs dont la compétence n'était pas discutable. Une belle distribution, vraiment. Il le fallait d'ailleurs, car la pièce qu'on allait jouer était poétique et célèbre, mais aussi fort compliquée. Si je vous expose la trame de l'œuvre, que vous ne comprendrez peut-être qu'imparfaitement, ce n'est pas pour éclairer le sujet. Non, pour cela, il faut plutôt assister au spectacle, mais pour que vous mesuriez de façon toutefois approximative les rapports qui existent entre les acteurs et leurs personnages. Voilà ce dont il s'agit. Une jeune personne appelée Isabelle est amoureuse d'un fantôme. Ce fantôme effraie le pays et l'amour d'Isabelle devient un scandale pour la population. Isabelle remplace provisoirement la maîtresse d'école qui est tombée malade, et son attitude est si surprenante, ses procédés d'éducation paraissent si révolutionnaires que les braves gens en sont sens dessus-dessous. L'inspecteur d'académie vient faire une enquête. Le maire, le droguiste et le contrôleur des contributions, qui tous les trois aiment bien Isabelle, essaient de calmer l'inspecteur. Mais celui-ci est intraitable. Il charge deux bourreaux d'exécuter le fantôme. Il y a des coups de feu. Le fantôme s'effondre puis réapparaît. Mais après avoir donné une leçon de morale à Isabelle, qui s'évanouit, il rejoint ses amis les morts. Isabelle, étant revenue à elle dans les bras du contrôleur, finit comme toutes les jeunes filles. C'est-à-dire qu'elle épouse ce charmant jeune homme, fonctionnaire irréprochable. L'inspecteur, le maire, le droguiste sont très contents de ce dénouement. C'est un sujet, comme vous pouvez en juger, peu banal et assez magique. Le metteur en scène attendait beaucoup de ses interprètes, et il était sûr que son spectacle plairait au roi. Simplement, il trouvait la pièce insaisissable. Il plaçait les acteurs de ci, de là, avec hésitation. Il disait c'est peut-être ceci. Mais on peut adopter également autre chose. Il faut voir. Il faut réfléchir. Ce jeune metteur en scène était en somme un philosophe. Mais les acteurs, qui aiment qu'on leur parle un langage intelligible et clair, sauf quand ils pensent avoir affaire à un homme de génie, le génie ayant le droit de se parer d'obscurité, les acteurs, donc, étaient tout à fait déroutés par tant de modestie évasive. Un jour, il dit « La pièce étant de la musique, chacun de vous pourrait se mettre derrière un pupitre et lire tout simplement son rôle. » Cette remarque, pourtant judicieuse, faite après que chacun eut appris à grand-peine un texte terriblement embrouillé, suscita des remous hostiles parmi les interprètes. On laissa sous-entendre que non seulement le metteur en scène était un incapable, mais qu'il se pourrait bien qu'il fût un peu fou. Il se passait d'étranges choses partout au théâtre, dans les esprits et dans les cœurs. Était-ce la présence d'un fantôme en scène qui déroutait ainsi la troupe? Quand je dis « un fantôme », je devrais dire deux. Le second était nommé « Fantôme bis ». Son rôle était complètement muet et ne comportait qu'une chute. En effet, quand le fantôme était tué par des bourreaux, pan, pan, deux coups de revolver, c'était Fantôme bis qui tombait et restait par terre, pendant que le vrai fantôme entrait au fond du décor en proclamant d'une irrésistible voix sombre et veloutée « Adieu, Isabelle !» Et cet « Adieu, Isabelle !» était lourd de reproches. Il était évident pour tous qu'il aurait souhaité emporter Isabelle avec lui dans le royaume des morts. Juste à ce moment, l'éclairagiste réglait une bascule savante de lumière qui plongeait graduellement le décor dans un noir presque absolu. Quelle atmosphère étrange! La jeune actrice qui jouait Isabelle avait les nerfs très éprouvés. Un jour, elle se mit à sangloter en coulisses, accrochée d'une main à un morceau de décor qu'on appelle important, pendant que le camarade chargé du rôle du droguiste lui tapotait l'autre main avec sollicitude. Elle hurlait, Isabelle. J'aime le spectre. Que vais-je devenir? J'ai un bon mari qui m'adore et que j'aime aussi. Qu'est-ce que cette passion incompréhensible vient faire dans ma tête, mon cœur et ma vie? Pourquoi ce fantôme est-il devenu l'homme idéal et parfait? Je veux mourir, je veux mourir. Du calme, mon petit chou, répondit benoîtement le droguiste. Il n'y a pas de quoi se mettre dans un état pareil. C'est un phénomène d'incubation tout à fait normal pendant les répétitions. Il te quittera quand tu joueras devant le roi. Patiente. Le metteur en scène arriva sur ses entrefaites. Il rafraîchit le visage de son interprète avec un mouchoir trempé d'eau et fit appeler le mari. Celui-ci vint en hâte et emmena sa jeune femme, qu'on ne revit pas pendant plusieurs jours. L'acteur qui jouait le fantôme passait au même moment par quelques difficiles tribulations. Non qu'il aimât sa partenaire autrement que d'une sympathique amitié. Pour lui, c'était tout autre chose. Figurez-vous qu'un soir, en rentrant à son domicile, alors qu'il cherchait les clés dans sa poche, il se retrouva subitement dans l'entrée de son appartement. Sa main était encore dans son pardessus, à la recherche du trousseau. Il fut si stupéfait d'avoir traversé la porte blindée sans même s'en apercevoir, qu'il passa une nuit affreuse, à laquelle allait succéder une longue suite de jours angoissés. À partir de là, il n'eut plus besoin d'ouvrir une porte pour aller d'un lieu à un autre, et les moyens de transport ne lui furent plus d'aucune utilité. Il lui suffisait de penser « Je pars pour le théâtre » et il y était arrivé. Il n'eut pas non plus le désir de se nourrir. Ses partenaires le trouvaient bizarre. Il devint peu à peu fort pâle. « Tu n'auras pas à te maquiller en spectre », lui dit un jour le contrôleur compatissant. « Tu en as une mine !» Il sourit faiblement. Il était au martyr. Il n'osait plus rentrer chez lui de peur de terroriser ses voisins en traversant les murs de son immeuble. Au théâtre, il sauvait les apparences. Les portes y sont toujours ouvertes. Mais il ne prenait plus l'ascenseur. Il empruntait l'escalier, il comptait. Une marche, deux marches, trois marches, etc. Pour être sûr de ne pas arriver tout de suite à l'étage de sa loge. Les autres, le voyant absorbé dans ce dur effort de concentration, lui disaient « Ne monte pas à pied, ça te fatigue, tu as l'air épuisé !» Il l'était. Ces nuits, il les passait à l'air libre, dans les jardins publics, où il faisait d'étranges rencontres. Des ombres solitaires et sans doute glacées traînaient elles aussi par là. Au bout d'une quinzaine de jours de cet ascétisme douloureux, il ne discerna vraiment plus s'il était un vivant ou un mort. Isabelle, de son côté, ne cessait d'être la proie de nouvelles crises de nerfs. Un jour, elle cria « Je ne veux plus que ce spectre me dise ce qu'aiment les hommes, Ce que tu aimes, ce n'est pas connaître, ce n'est pas savoir, c'est osciller entre deux vérités ou deux mensonges. Qu'on coupe cette phrase qui me fait trop souffrir. Pourquoi ? Demanda le plus calmement possible le metteur en scène qui essayait de ne pas perdre patience. « Parce que c'est vrai !» cria l'actrice. Et elle sanglota pour elle-même. « Je suis entre deux vérités, mes deux amours. Et l'amour étant unique, mes deux vérités deviennent des mensonges. C'est évident et c'est intolérable !» Il fut si intolérable de l'avoir suffoquée dans son mouchoir qu'on fit encore venir le mari. Tendrement, il la reconduisit à leur domicile où elle resta enfermée pendant plusieurs jours, innocente victime d'un terrible délire. Au théâtre, l'ambiance devenait difficilement supportable. Le grand acteur qui jouait l'inspecteur d'académie s'impatientait d'être obligé de mettre au point son rôle dans une atmosphère aussi décousue. Un jour, ce fut trop pour lui. On vit arriver, caméra au point, des hommes de télévision. Il projetait de faire un court reportage. À son tour, il cria « Non ! Je n'interpréterai pas même trois répliques pour le petit écran. C'est un scandale. Le spectacle s'annonce comme de la bouillie pour les chats. » Et avec fracas, il remonta dans sa loge. On vit alors arriver, à la surprise de chacun, tous les chats du quartier qui prirent possession de la scène et, solidement assis sur leur derrière, attendirent leur bouillie en se pourléchant les babines. Quelle épreuve pour tous! Quelle péripétie imprévue! Deux actrices d'un certain âge, avec la bonne volonté d'arranger les choses, appelèrent les accessoiristes. « Apportez-nous des balais, dirent-elles, nous allons chasser les chats. » Et ce fut fait. Elles avaient espéré que les accessoiristes se chargeraient eux-mêmes de la besogne. Cependant, rien de semblable n'étant prévu dans les règles syndicales et la convention collective, elles furent déçues. Le grand acteur, un peu calmé par l'intervention du directeur, descendit de sa loge et on joua la scène. Mais les actrices étaient si énervées d'avoir été obligées de manier le balai, chose qu'elles ne faisaient pas chez elles, qu'elles bafouillèrent devant la caméra et en conçurent un certain désespoir, car elles disposaient toutes deux d'une technique parfaite et en étaient justement fières. Il y avait aussi dans la distribution tout un bataillon de petites filles, les élèves d'Isabelle. Charmantes à voir, elles mettaient quelques gaietés dans les couloirs. Mais, comme elles étaient peu disciplinées, elles apportaient une confusion supplémentaire à l'atmosphère déjà si embrouillée du travail. Un soir, l'acteur qui tenait le rôle du maire fit une réunion générale dans sa loge. Seul manquait le contrôleur des contributions. On ne sait pourquoi. Peut-être parce qu'il faisait partie de la race sereine, des gens que rien ne trouble. Quand tous eurent pris place, le maire parla ainsi. « Mes chers camarades, nous allons au désastre. Il faut trouver une solution. » « Ne nous déshonorons pas devant le roi. Mourons, plutôt. Mourons sans scandale, mais mourons !» Les actrices d'âge mûr firent grise mine. Elles tenaient à leur vie. L'une d'elles dit « Vous êtes fou. J'aime mieux un contrat résilié qu'une vie suspendue. Suspendue à quoi, je vous le demande ?»« Droguiste, dit le maire sans tenir compte de cette intervention. Préparez-nous une mixture buvable, et qui voudra l'absorbera ?» Il y eut un moment de silence extrêmement digne. Chacun rentra chez soi afin d'avoir un temps de calme réflexion. Le lendemain après-midi, les deux actrices d'âge mûr firent prévenir le metteur en scène qu'elles ne viendraient pas. L'une avait, hélas, subitement la grippe, l'autre, hélas, une terrible migraine inattendue. Le droguiste était un peu défait. Il avait passé la nuit à compulser des livres et avait mis au point un mélange de drogues douces propres à assurer un sommeil profond et définitif. Il était sûr de son fait. À l'heure de la répétition, le metteur en scène trouva sa troupe peu attentive. « Que faites-vous » disait-il. « Concentrez-vous, que diable ! Vous dites n'importe quoi ! Ce texte, maintenant, devrait être absolument su. Nous sommes à la veille de la générale !» Exceptionnellement, il sortait de ses gonds. Mais la distribution resta plongée dans une apathie absolue. Isabelle pensait. « Je vais échapper à l'enfer de ma dualité. » Le fantôme. Je saurai enfin si je suis bien mort. » L'inspecteur, le maire, le droguiste mettaient au-dessus de tout l'honneur professionnel. Seul le contrôleur, impavide, disait son texte en toute conscience. Quand la répétition fut levée, le bataillon bruyant et gai des petites filles, élèves d'Isabelle, s'enfuit, suivi du contrôleur. Isabelle, le fantôme, le maire et le droguiste s'enfermèrent dans la loge de ce dernier. Ils burent chacun quelques gouttes du breuvage meurtrier, et ils s'endormirent à jamais. Le lendemain matin, quand ce suicide collectif fut découvert par les femmes de ménage, le royaume fut secoué d'horreur. On garda pourtant l'événement secret jusqu'à ce que le roi aux têtes innombrables fût assis dans la salle le soir même. Comme à l'accoutumée, on frappa les trois coups. Le rideau se leva, et au milieu d'un admirable décor, on vit entrer le metteur en scène, pâle et tremblant. Il s'inclina avec respect et dit « Cher public, mon roi, je suis dans l'obligation d'annoncer à votre grandeur attentive que le spectacle n'aura pas lieu. Les acteurs principaux, à l'exception de trois, s'étant hélas, pour des raisons obscures, suicidés. » Le roi aux têtes innombrables, comme un seul homme, se leva. Dans les jours qui suivirent, le grand directeur fut renvoyé. Les actrices d'âge mûr et le jeune premier indifférent furent mis en congé prolongé. Le metteur en scène, malgré ses relations, fut condamné à l'exil. Et le royaume subit des modifications importantes de législation intérieure. Nous jouions Intermezzo au cours de la première semaine de décembre 1983. Cette première semaine de décembre est le moment où chaque année se réunit le comité d'administration. Celui-ci examine successivement le cas de chacun des membres du personnel, technicien, pensionnaire, sociétaire. Les sociétaires, siégeant au comité, passent eux-mêmes en jugement. Quand hiérarchiquement le tour de l'un d'eux arrive, l'intéressé se retire, laissant à ses camarades le soin de délibérer à son sujet et de décider de son sort. Cet aréopage est ainsi composé. Trois membres élus par l'Assemblée générale des sociétaires, plus un suppléant, trois membres nommés par le ministre de la Culture, plus un autre suppléant. Ces quatre derniers membres sont proposés par l'administrateur. Aucun ministre, à ma connaissance, ne s'est jamais opposé aux suggestions de l'administrateur dans ce domaine. Un autre acteur fait partie de droit du comité. Il n'est ni coopté ni proposé. C'est le doyen de la société. Le doyen est le plus ancien des sociétaires, son ancienneté datant de sa nomination au sociétariat et non pas de son entrée dans la maison. Pendant les représentations d'Intermezzo, j'ai beaucoup attendu, patiemment, dans ma loge, que l'interphone m'appelât. Désormais, plus d'huissiers aboyeurs dans les couloirs comme au temps de Germaine. Imprégné de la poésie de Giraudoux, intoxiqué par elle, j'écrivais des contes de fées. Mademoiselle Mangebois, le personnage que j'interprétais, m'en laissait les loisirs. Les séances plénières de décembre avaient lieu. Françoise Seignier, ma sœur Mangebois cadette, en faisait partie. Elle avait été élue par l'Assemblée générale à la fin de 1982. Elle me rejoignait derrière le décor pour des entrées en scène que nous faisions l'une derrière l'autre, au rythme agressif d'un pas quasiment militaire. Même malgré les airs vengeurs qu'elle adoptait, comme moi, pour les besoins de la situation scénique, je la sentais très abattue. J'imaginais que le matin, au comité, on se bagarrait. Les réunions ont en effet lieu le matin pour ne compromettre ni le travail ni les spectacles. Je n'interrogeais pas. Autour des comités, le silence est de rigueur. Bien que mon personnage fût celui de la sourde, en coulisses, un vent tournant et glacé soufflait avec insistance à mon oreille qu'Yvonne Godot était menacée. Je laissais faire le vent. L'âme en paix, quand j'avais dit toutes mes répliques, je remontais dans ma loge pour tenir le rôle actif d'animatrice de trois petites fées très amusantes pour moi et que j'aimais beaucoup. Je ne pouvais évidemment pas ignorer qu'au bout de 30 ans de présence, le contrat des sociétaires est remis chaque année en question, ni que j'avais déjà bénéficié de 7 ans de prolongation. Les comités se terminèrent. Je l'appris par ma sœur Mangebois qui, ce soir-là, avec un sourire fraternel, fit « ouf » en me regardant de façon aussi appuyée qu'attendrie et éloquente. Quelques jours plus tard, je fus convoquée dans le bureau de J.P. Vincent, alors administrateur, devant lequel j'eus à vivre un très joli moment extrêmement ambigu. Il me dit en regardant le plafond, nous avons pensé, Michel Aumont, François Seignier et moi, que vous joueriez très bien Frosine. Je reprends l'avare pendant la tournée de Félicité. Les trois Frosines sont dans Félicité. Et qu'en pensez-vous? Comme un ange ravi, je répondis. Quelle bonne idée! Je connais bien la pièce. J'y ai débuté. Pendant des années, j'ai joué alternativement Élise et Marianne. J'en ai vu des Frosines. Au-dessus de la tête de Jean-Pierre Vincent, Dulin me fit un clin d'œil approbateur et amusé. Pour moi, la boucle de la carrière se refermait. La vie est ainsi faite, pour peu qu'on ait le sens de l'irisation. J'ai joué, Frosine. Mais l'année suivante, en 1984, lors des comités sempiternels de fin d'année, que s'est-il passé? Il me faut préciser ici qu'en 1980, sous le mandat d'administrateur de Jacques Toja, une décision intérieure importante avait été prise en faveur des femmes. Désormais, celle-ci allait enfin bénéficier d'un affichage par ordre de préséance. Précédemment, la troupe féminine arrivait en effet à l'affiche derrière la distribution masculine, et ce, quelle que fût l'importance des rôles. Bast, qui n'a que quelques mots à dire, était ainsi depuis toujours affiché avant Célimène. Les femmes accéderaient désormais également à la fonction de doyen. En 1984, après le départ de Georges Descrières, je me trouvais, grâce aux nouvelles dispositions, en tête de liste. Me voilà donc devenu doyen. Être doyen, c'est être le représentant de la société, éventuellement son porte-parole. C'est aussi essayer d'accorder les contraires, à condition que votre conscience n'ait pas à en souffrir. Mais si ce n'est pas le cas, c'est dire non. C'est dire « la Comédie-Française est un grand répertoire, servi par une grande troupe, et pas par n'importe qui, dans n'importe quoi, dirigé n'importe comment. » Difficile. Très difficile de concilier cela avec des rapports aimables. Aussi difficile de concilier la vie de femme avec la vie d'actrice. En 2 ans, y serais-je parvenue? À l'heure de Frosine, j'avais à lutter pour la seconde fois contre un cancer. C'est alors que j'étais en congé de maladie que j'ai abordé le décanat. Quand Jean Le Poulain s'est installé à son tour dans le bureau, en apparence douillet de l'administrateur général, je lui ai fait part de mon désir de me retirer provisoirement de la scène. Continuer à exercer les fonctions de doyen, loin du public et du plateau, n'avait aucun sens pour moi. Juger les autres sans avoir prêté moi-même pendant 2 ans le flanc à la critique me devenait insupportable. De même, je n'envisageais pas de m'exposer au risque du stress parisien et professionnel après les dures expériences d'une maladie 2 fois vécue. Je dis donc au revoir à la rue de Richelieu, à ma loge rose, à mes placards garnis de costumes. Je dis au revoir en souriant, et merci. Merci au génie tutélaire, à Molière d'abord, aux grands aînés. Merci à l'admirable répertoire qui m'a tant appris sur moi-même et sur les autres. Merci au métier qui m'a contrainte à rire quand j'étais pleine de larmes, qui m'a aidée à donner envie de ma santé quand j'étais très malade. Merci au public, des salles bondées, qui trépignent de bonheur, comme le font les enfants. Merci à l'isolé connaisseur ou inconditionnel, qui approuve au milieu d'un auditoire glacé. Merci enfin au sort, qui m'a accordé 2 fois 20 ans de présence, l'équivalent de 2 belles jeunesses en somme, dans un théâtre que j'ai aimé. Elle est dans la ville.